Frères et sœurs, c'est dans l'évangile selon Jean, le quatrième évangile, contenu dans la liste des livres bibliques, que je vais vous lire ce passage qui rapporte cet épisode qui concerne Jésus, Marthe, Marie et Lazare. Au chapitre 11 de l'évangile selon Jean, voici ce que nous lisons. Il y avait un malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il dit, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Sur ce, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-nous aussi afin de mourir avec lui ?» À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marie apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Après avoir dit cela, elle s'en alla, puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit secrètement, « Le maître est ici, et il t'appelle. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et se rendit vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie et qui la consolaient, la virent se lever promptement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Il dit : « Où l'avez-vous mis ? » Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Les Juifs dirent donc : « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas ? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit : « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit : « Seigneur, il sent déjà, car c'est le quatrième jour. » Jésus lui dit : « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit : « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule, de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte : « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit : « Déliez-le et laissez-le aller. » Dans notre recueil de chants, je vous propose de chanter le cantique 222. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique et nous nous levons pour chanter. Dieu notre Père, tu as les paroles pour dire que tu t'es mêlé à notre histoire, comme la semence à la terre, et que la transfiguration des vivants est sur le point de s'accomplir. Dieu notre Père, tu as les paroles pour aimer jusqu'à l'offrande dernière, pour enfuir la puissance de cet amour dans le cœur de tous les vivants et en faire la charpente de ce monde à bâtir. Dieu notre Père, tu as les paroles pour agir selon la justice et la droiture, pour renverser les dominations qui internent la grandeur des vivants et pour donner à chacun sa mission d'évangile. Seigneur, toi qui as les paroles pour vivre, donne-nous d'entendre ta parole. Chers frères et sœurs, le moins que l'on puisse dire est que les protestants ont un rapport à la mort assez ambivalent. D'une part, nous avons tendance, et à bon droit, tendance à faire valoir le radicalisme de Jésus, qui s'était exprimé dans des termes sans ambiguïté, « Laisse les morts ensevelir leurs morts ». Et d'autre part, nous ne traitons pas nos morts comme de simples objets hors d'usage. Nous ritualisons le temps du deuil. Autrement dit, les protestants ont un rapport à la mort en forme de ni-ni. Ni fascination à l'égard de la mort, ni déni de la mort. La mort ne submerge pas la vie chrétienne, du moins de nos jours. Ce n'est plus un sujet qui nous angoisserait jour après jour. Elle n'est pas non plus reléguée hors de l'histoire, nous ne faisons pas comme si la mort n'existait pas. La mort est envisagée comme l'un des éléments constitutifs de la vie. Peut-être les protestants ont-ils un rapport, je ne dirais pas décontracté avec la mort. Mais en tous les cas, la mort ne constitue pas un tabou. Il y a la possibilité de pouvoir penser la mort. La mort est envisagée aussi bien dans les textes bibliques que dans la théologie. Et ici encore, on parle de la mort sans embâge, sans euphémisme. Ici, Jésus aborde la question de la mort avec ses disciples, et cela se fonde sur un malentendu. Vous l'avez entendu, bien, j'espère, mais j'en doute à vrai dire. Le malentendu était déjà là à l'époque des disciples, et probablement si l'évangile selon Jean a gardé la mémoire de ce récit où il y a ce dialogue entre Jésus et les disciples, c'est parce que le rapport à la mort ne va jamais de soi et qu'il convient toujours de revenir sur ce que Jésus et les disciples discutent. Une sorte de malentendu qu'il faut dissiper génération après génération aujourd'hui encore. Le malentendu porte sur la réalité de la mort. Dans le cas de Lazare, est-il question d'un assoupissement, auquel cas il n'y a pas lieu de s'inquiéter ? Ou s'agit-il d'une mort au sens physiologique du terme, avec l'arrêt des fonctions vitales, essentiellement le cœur et le cerveau ? S'il ne s'agit que d'un assoupissement, d'un endormissement, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Les disciples, d'ailleurs, considèrent que ce n'est pas grave, que cela va s'arranger. S'il s'est endormi, il sera sauvé. Ils disent cela comme nous pourrions dire à un ami « Repose-toi, ça ira mieux après. » Mais voilà que Jésus les reprend, en leur disant que c'est beaucoup plus grave que cela, qu'il s'agit bien de mort et que naturellement ça n'ira pas mieux après. Mais en disant que c'est grave, que ce n'est pas seulement un état passager, en rapportant l'état de Lazare à la mort, je ne pense pas que Jésus parle de la mort au sens biologique du terme pour autant. Et plus loin, lorsque Lazare sortira du lieu où il a été ligoté avec des bandelettes, ce ne sera pas le résultat d'une réanimation de ses fonctions vitales par un Jésus qui serait alors un thaumaturge. Trois éléments me conduisent à penser cela. Tout d'abord, Marthe avertit Jésus que Lazare sent déjà. Autrement dit, que la décomposition a déjà commencé. Dans ces conditions, Lazare n'aurait pas pu sortir seul, sans être soutenu. Je vous épargne le reste des détails. Ensuite, il est ligoté, pieds et mains liés, dit le texte, le visage recouvert d'un suaire. Dans ces conditions, il n'est pas possible de se mouvoir seul. C'est un deuxième indice que le texte nous offre pour nous prémunir d'une lecture qui ferait de la mort de Lazare une mort clinique et de sa sortie une réanimation surnaturelle. Évidemment, ces deux remarques ne valent que dans un contexte où les lois de la physique sont respectées. Si nous considérons que Jésus est en mesure de défier ces lois de la physique et de les soumettre à sa volonté, alors nous pouvons envisager qu'il a réussi ce tour de force qui consiste à déplacer un corps décharné et sanglé. Jésus a-t-il accompli cela par la seule force de sa volonté ? Le texte ne nous emmène pas dans cette voie, à vrai dire. Ce n'est pas Jésus qui est réputé avoir sorti Lazare de sa tombe. Le récit déclare que c'est Lazare qui est sorti sans aide extérieure. Jésus n'est donc pas présenté comme détenteur de pouvoirs surnaturels qui mettraient à mal les lois de la physique. Enfin, le troisième élément qui me conduit à penser que ce récit ne rapporte pas un fait historique que les contemporains de Jésus auraient pu voir tel qu'il est rédigé, et qui me semble l'élément le plus décisif, c'est qu'aucun autre évangéliste ne rapporte cet épisode. Pensez bien, un tel fait historique, comment ne pas le consigner dans notre évangile ? Un événement aussi considérable n'aurait pas pu être mis de côté par les autres évangélistes qui, par ailleurs, n'ont pas hésité à raconter des récits de résurrection. Aussi, ignorer la résurrection de Lazare, qui est tellement emblématique, tellement saisissante, avec un Jésus qui pleure, par exemple, avec un homme en état de décomposition, eh bien, va dans le sens d'une rédaction d'un texte qui se focalise plutôt sur un message à révéler que sur l'historicité d'un fait survenu à un moment précis. Alors, je reviens sur le malentendu, pour essayer de le dissiper. Le malentendu n'est pas, selon moi, que Jésus aurait dit que Lazare était cliniquement mort alors que ses disciples auraient compris dans un premier temps qu'il était juste endormi. Le malentendu est que Jésus dit bien que Lazare est comme endormi, assoupi. D'ailleurs, il est même question de le réveiller, de le sortir de la nuit, dans le texte grec. Mais le malentendu, c'est que pour les disciples, cela ne semble pas grave. Ce n'est pas si grave s'il ne s'agit pas de mort clinique. Lazare souffre d'asthénie, dit le texte grec au premier verset. Il est faible, il est incapable de quoi que ce soit. Il est comme entravé. Il est comme ligoté par des bandelettes qui l'empêcheraient de quoi que ce soit. Il est comme momifié, pour prendre une image extrêmement parlante. Lazare est empêché d'exister parce qu'il est confiné à son corps. Il est comme réduit à son pauvre corps qui est devenu son dernier territoire. Un territoire dont la frontière a été fermée aussi bien par les bandelettes que par une lourde pierre. Par une pierre, le texte ne précise pas qu'elle est lourde. Autrement dit, la vie de Lazare est fermée à double tour. Et cela n'est pas moins grave qu'une mort clinique. Je serai plus précis. Cela est plus grave, finalement, dans l'esprit de Jésus qu'une mort clinique, car c'est sur cet aspect que nous, les vivants, nous pouvons réellement interagir. Cette situation est grave aux yeux de Jésus qui ne retiendra pas ses larmes et qui va intervenir pour métamorphoser la situation, pour ne pas la laisser en l'état, pour ne pas maintenir ce verrouillage à double tour de l'existence de Lazare. Et je repère deux raisons, deux verrouillages. Le premier mal dont souffre Lazare, selon l'évangéliste Jean, le premier verrouillage de sa vie, c'est le conformisme qui règne au sein de la famille de Lazare. Je relève deux éléments qui nous disent la nature du problème. Tout d'abord, Lazare n'est jamais nommé par les deux autres membres de la famille. Les sœurs, Marthe et Marie, ne le désignent jamais que par ses relations. « Celui que tu aimes, mon frère », mais jamais son prénom n'est évoqué, jamais son nom n'est dit. Contrairement à Jésus qui non seulement l'appellera par son nom, ce qui sera l'élément décisif à la fin du récit, mais qui le nomme également lorsqu'il parle de lui avec ses disciples. Oui, Jésus dit « notre ami », mais il dit « Lazare ». Notre ami, ou Lazare est mort. Lazare est mort de n'avoir pas d'existence propre dans ce texte. Lazare est mort de n'être ici considéré que dans sa relation aux autres. Ce qui pourrait être paradoxal, tant nous insistons sur le fait que la relation à l'autre est importante et même décisive, tant nous prêchons la relation à l'autre. Mais pas quand cette relation efface la singularité de la personne. Nos relations interpersonnelles ne devraient jamais effacer notre personnalité, sans quoi nous risquons de finir comme Lazare. Nous ne devrions jamais entrer dans un rapport fusionnel qui nous dissoudrait dans le grand tout de la vie. Les évangiles, les textes bibliques s'efforcent de dire que nous sommes détenteurs d'une altérité radicale, que nous avons une identité qui n'est pas réductible à ce qu'un groupe peut être et porter. Nous sommes détenteurs d'une altérité radicale, et si cette altérité est gommée par le jeu de rapports humains étouffants, eh bien nous cessons de vivre et nous devenons prisonniers de la relation. Nous devenons même une sorte d'objet aux mains de celui qui nous tient. Je dirais que Marie et Marthe disent « mon frère » comme nous pourrions dire « ma voiture »,« mon pasteur », »,« mes paroissiens », »,« mon conjoint », »,« mon enfant ». En le nommant à la fin du récit, Jésus rétablit Lazare dans son identité. Notez que c'est ce que Jésus fera aussi à Marie lors du récit de la résurrection. Il l'appellera par son nom. Et là, il y aura une reconnaissance mutuelle. Chacun retrouvera sa bonne place. Ce conformisme se lit aussi dans les phrases stéréotypées que Marthe et Marie disent à Jésus. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Nous avons deux perroquets qui disent exactement la même chose dans ce récit, à quelques versets d'intervalle. Copie conforme dans ce que nous pouvons entendre comme une confession de foi plutôt qu'un reproche, la reconnaissance de la puissance vivifiante de Jésus et non uniquement le reproche que Jésus n'a pas été là au bon moment. Comment ne pas se sentir prisonnier d'un carcan familial quand rien ne dépasse, quand tout le monde répète exactement la même doxa. Comment ne pas dépérir, ne pas avoir le sentiment d'être véritablement mort quand il n'y a pas la moindre place pour la moindre différence, quand il n'y a pas la moindre place pour une autre manière de dire les choses, et donc de voir les choses, et donc de voir la vie, les autres, et donc une autre manière d'être, une autre manière de vivre, la possibilité d'exister, nom d'un petit bonhomme. Imaginez que nous n'ayons ici qu'une seule confession de foi et qu'on vous oblige à la signer. Dieu garde. Lazare, sors. Sors de cette caverne. Sors de cette cellule. Sors de ce seul corps et de cette surdétermination familiale. Sors de ce semblant de vie. Sors de cette répétition infinie. Sors de ce mimétisme. Sors de ce cercle vicieux. Sors de ce sens giratoire de la vie. Sors. Ne reste pas confiné là où il n'y a que l'ombre de la vie. Ne reste pas assigné à résidence, mais sors. Traverse cette vallée où plane, règne l'ombre de la mort. Sors. Sors comme Abraham est sorti de sa famille, ou comme les peuples hébreux est sorti d'Égypte, image de la servitude, de la vie soumise à l'esclavage. Sors. Oui, dans l'esprit de Jésus, l'assoupissement, l'asthénie, est une chose grave, sérieuse, qui demande que l'entourage s'en soucie sérieusement. Le deuxième mal dont souffre Lazare, le deuxième verrouillage, c'est la mémoire. Sa mémoire est comme viciée. Le texte biblique, en disant que Lazare a été mis dans une tombe, dit qu'il a été placé dans un mnéméon. Nous retrouvons cette racine grecque dans la langue française avec le mot mnémotechnique, par exemple. C'est une racine qui signifie la mémoire, le souvenir, le mémorial, et donc, de fil en aiguille, le tombeau. Lazare a été mis dans un mémorial, et une pierre a été placée à l'entrée. Il ne risque pas d'en réchapper. Nous pouvons donc lire également que Lazare est enfermé dans la mémoire. Et quel avenir possible pour quelqu'un qui est enfermé dans la mémoire? Quel avenir possible pour quelqu'un qui ne ferait pas autre chose que commémorer le passé, célébrer ce qui a été et qui n'est plus, qui ne ferait pas autre chose que de vivre de la mémoire, qui ne vivrait que dans les souvenirs? L'ambivalence des protestants à l'égard de la mort vaut aussi pour la mémoire. Il n'y a ni fascination pour le passé, ni déni du passé. Se souvenir de tout ou ne se souvenir de rien serait aussi tragique. La mémoire est un élément constitutif de notre vie, mais la mémoire n'est pas notre patrie, pas plus que la mort naît notre patrie. La mémoire, le passé, ne sont pas plus nos juges, notre Dieu, notre fonds de commerce. Lazare, sors. Sors de ce passé qui te tient lieu de cachot. Oui, sortir du passé. Parce que, comprenons bien que si nous restons enfermés dans le passé, dans la mémoire, alors nous nous isolons dans une histoire non seulement révolue, mais surtout sans acteur. Nous ne sommes plus dans le même temps que nos contemporains. Nous ne sommes plus contemporains de nos contemporains. Nous ne sommes plus avec le peuple des vivants. Vivre dans la mémoire, vivre dans le passé, nous sépare inexorablement de nos contemporains. Ouvre ton regard au présent, car le présent est le lieu qu'il faut investir. Dès à présent, puisque demain nous mourrons. C'est aujourd'hui que je vais ressusciter Lazare, Jésus fait-il comprendre à Marthe, qui, elle, était coincée dans un avenir sans présent. Chacun ses problèmes. Jésus permet ici à chacun de réinvestir le présent qui est notre véritable patrie, le bon lieu pour s'épanouir, le bon lieu pour s'investir de tout son être. Jésus coupe court à cette eschatologie, ce sera le seul gros mot de cette prédication, qui est devenue une sorte d'attente passive d'un jour où tout s'arrangera de manière surnaturelle, sans que nous y soyons pour quoi que ce soit. Jésus rapporte l'eschatologie, qui est la science des choses dernières, l'eschaton, la fin, à notre présent, pour que notre présent soit pensé en fonction de ce que nous pouvons faire, entreprendre, de ce qui est à venir. Contre l'enfermement dans un passé peut-être magnifié et commémoré comme un âge d'or, eh bien Jésus relaie cet appel à prendre pied dans le présent, dans l'aujourd'hui. Cela peut sembler très anecdotique, très évident. Mais combien de fois nous surprenons-nous à être en fait figés dans le passé ? Et pas simplement sous l'angle du « c'était tellement mieux avant ». C'est vrai que le XXe siècle a été tellement charmant. À Lazare, qui était manifestement malade de sa mémoire et qui ne savait peut-être pas qu'en faire, qui voulait peut-être la maintenir en l'état pour garder intacte la faveur des premiers moments. Vous savez, comme dans une relation conjugale, lorsque c'était tellement bien au départ, la passion, l'effervescence, qu'on se dit, voilà, il faudrait absolument garder cela. Et du coup, on essaie de le mettre sous cloche, et du coup, on ne vit plus. On n'est pas capable de vivre d'autres intensités, du coup. Eh bien, Jésus adresse cet appel à délier Lazare et à le laisser aller, à ce qu'il fasse son chemin, à ce qu'il ne soit plus figé en terre. Et là encore, la liberté offerte à Lazare se traduit par un laisser-aller. Laissez-aller à l'impératif. Laissez-le aller. Laissez-le exercer ses responsabilités. Laissez-le expérimenter personnellement sa vie. Laissez-le faire histoire. Ne le contraignez plus. Ainsi, il me semble que ce récit parle d'une double libération de Lazare par Jésus. Jésus qui aura libéré Lazare de ces liens qui, au lieu de nous unir, nous fusionnent ou nous séparent, car il y a des liens qui nous séparent. Jésus ne se présente pas comme un superbe thaumaturge qui accomplirait des actes qui défient la nature. Jésus se révèle plutôt comme celui qui ne réduit pas l'humain à sa seule dimension naturelle, biologique, physiologique, et qui considère que la mort sociale est on ne peut plus grave. Ce faisant, il nous aide à trouver notre place parmi les autres, ni dans le fusionnel, illustré par cette famille qui pose problème, ni dans l'isolement, illustré par la question du temps, bloqué, en panne. Jésus propose une autre forme de communion où notre individualité demeure. Nous restons Lazare, nous restons celui que nous sommes, celui qui a été nommé le jour de son baptême, par exemple, et nous nous trouvons reliés à d'autres identités, d'autres individus, et ce sont ces autres individualités, ce sont ces autres individus, ce sont ces autres que moi qui nous sauvent de l'asthénie en libérant toutes les potentialités de notre vie. Amen.